Chapitre 16. La bringue de Noël chez l'entraîneur Bormann fut un bide, et le fantôme de Vince Knowles n'en fut pas l'unique raison. Le 21 du mois, las de regarder cette vilaine balafre rouge qui lui défigurait tout le côté gauche du visage, de l'œil jusqu'à la mâchoire, Bobby Jill Allnut s'enfila une poignée des somnifères de sa mère. Elle survécut, mais passa deux nuits au Parkland Memorial, l'hôpital où le président et son meurtrier expireraient l'un et l'autre, à moins que je ne change le cours des choses, bien sûr. En 2011, il doit y avoir des hôpitaux plus proches, presque à coup sûr à Kylene, peut-être même à Round Hill, mais il n'y en avait pas durant mon année d'enseignement à plein temps au lycée regroupé de Denholm. Le dîner au Saddle ne fut pas génial non plus. L'endroit était bondé et convivial, plein de gaieté de Noël, mais Sadie n'a pas voulu de dessert et a demandé à rentrer tôt. Elle disait avoir mal à la tête. Je ne l'ai pas cru. Le bal de la Saint-Sylvestre à la Grange fut un peu mieux. Il y avait un groupe d'Austin, de Jokers, qui déménageait un max. Sadie et moi avons dansé sous des filets bombés remplis de ballons jusqu'à en avoir mal aux pieds. À minuit, les Jokers se sont lancés dans une version style Ventures de Auld Lang Syne. Et le chanteur du groupe a braillé « Soyez heureux en 1962 !» Les ballons ont dégringolé autour de nous. J'ai embrassé Sadie et lui ai souhaité une très heureuse année tout en continuant à valser. Elle avait beau avoir ri et montré de la gaieté toute la soirée, je n'ai pas senti de sourire sur ses lèvres. Et une très heureuse année à toi aussi, George. Pourrais-je avoir un verre de punch ? Je suis assoiffé. Il y avait une longue file d'attente à la table du punch alcoolisé, une moins longue devant la version non corsée. J'ai versé une louche du mélange de limonade rose et de soda au gingembre dans un gobelet, mais quand je suis revenu vers Sadie, elle avait disparu.
« Je crois qu'elle est sortie prendre l'air, champion !»
m'a lancé Carl Jacoby. C'était l'un de nos quatre profs d'atelier, et probablement le meilleur. Mais ce soir-là, je ne l'aurais pas laissé approcher une machine à moins de 200 mètres. J'ai vérifié dans le groupe de fumeurs blottis sous l'escalier de secours. Sadie n'était pas parmi eux. J'ai marché jusqu'à la Sunliner. Sadie était assise sur le siège passager, les froufrous volumineux de sa jupe bouffant jusqu'au tableau de bord. Dieu sait combien de jupons elle portait. Elle fumait et pleurait. Je suis monté en voiture et j'ai essayé de la prendre dans mes bras. « Sadie, qu'est-ce qu'il y a ? Que se passe-t-il, ma pépette ?» Comme si je ne le savais pas. Comme si je ne m'en étais pas rendu compte depuis un certain temps.
« Rien !»
Redoublant de pleurs.
J'ai mes règles, c'est tout. Ramène-moi à la maison. »
Nous n'étions qu'à 5 kilomètres, mais cela a ressemblé à un très long trajet. Nous n'avons pas parlé. Je me suis engagé dans son allée et j'ai coupé le moteur. Elle avait cessé de pleurer, mais ne disait toujours rien. Moi non plus. Certains silences peuvent être amicaux. Celui-ci était étouffant. Elle a pris ses Winston dans son sac à main, les a regardés avant de les y remettre. Le claquement du fermoir a résonné très fort. Elle m'a regardé. Ses cheveux dessinaient un halo sombre autour de l'ovale blanc de son visage. « As-tu quelque chose à me dire, George ?» Ce que je voulais lui dire par-dessus tout, c'est que je ne m'appelais pas George. J'en étais venu à détester ce nom, presque à le haïr. Oui, deux choses. Grand 1, c'est que je t'aime. Grand 2, c'est que je ne fais rien dont je puisse avoir honte. Ah, et 2, grand A, rien dont tu puisses avoir honte. Bien, c'est bien. Moi aussi je t'aime, George. Mais je vais te dire une chose si tu veux bien m'écouter. Je t'écouterai toujours. Mais elle m'effrayait. Tout peut être inchangé, pour le moment, tant que je suis toujours marié avec John Clayton.
Même si c'est uniquement sur le papier et que le mariage n'a jamais été effectivement consommé, il y a des choses que je ne me sens pas en droit de te demander. C'est dit. Ses doigts sur mes lèvres m'ont fait taire. Pour le moment. Mais je ne laisserai jamais un autre homme mettre un balai dans mon lit. Tu m'as bien comprise ? Elle a posé un baiser rapide, là où ses doigts m'avaient effleuré, puis elle a fui, remontant en courant son allée tout en fouillant dans son sac pour trouver sa clé. Voilà comment commença l'année 1962 pour l'homme qui se faisait appeler George Amberson. Jour de l'an. Aube froide et claire. Prévision météo au bulletin agricole du matin. Risque de brouillard givrant en plaine. J'avais rangé les deux lampes trafiquées dans mon garage. J'en ai embarqué une dans ma voiture et j'ai roulé jusqu'à Fort Worth. Je me disais que si jamais le carnaval obscène de Mercedes Street s'arrêtait un jour dans l'année, ce serait celui-là. J'avais raison. La rue était aussi silencieuse que... aussi silencieuse que le mausolée des traqueurs quand j'y avais traîné le cadavre de Frank Dunning. Des tricycles renversés, quelques jouets gisaient dans les jardins pelés. Un joyeux fêtard avait abandonné devant son porche un joujou de plus grande taille, une monstrueuse vieille Mercury, toute portière ouverte. De tristes restes de guirlandes en crépon jonchaient la chaussée en terre battue, et beaucoup de boîtes de bière, Lone Star pour la plupart, avaient roulé dans les caniveaux. J'ai jeté un coup d'œil en face, au numéro 2706, et n'ai vu personne à la grande fenêtre de devant. Mais Ivy avait dit vrai. Quiconque se serait posté là aurait eu une vue imprenable sur le salon du 2703. Je me suis garé sur les deux bandes de ciment qui tenaient lieu d'aller, comme si j'avais le droit le plus absolu de me pointer à l'ex-domicile de l'infortunée famille Templeton. J'ai pris ma lampe et ma boîte à outils flambant neuve et me suis dirigé vers la porte d'entrée. J'ai eu quelques sueurs froides quand la clé a refusé de tourner, mais c'était juste parce qu'elle était neuve. Je l'ai lubrifiée d'un peu de salive, secouée un peu dans la serrure, et bingo, je suis entré. Il y avait 4 pièces, en comptant la salle de bain, visible derrière une porte ouverte qui pendait sur un gond. La plus spacieuse était une salle de séjour cuisine. Les deux autres étaient des chambres. Il y avait un sommier sans matelas dans la plus grande. Je me suis souvenu d'Ivy me disant « Ça fera un peu comme emmener son chien en vacances, vous trouvez pas ?» Dans la plus petite, Rosette avait dessiné des petites filles au crayola sur les murs, dont le plâtre effrité laissait voir par endroits le lattis de bois. Elles portaient toute une robe chasuble verte et de grandes chaussures noires. Elles avaient des couettes démesurées, aussi longs que leurs jambes, et presque toutes tapaient dans un ballon de football. L'une d'elles portait un diadème de Miss Amérique juché sur sa chevelure et un bon vieux rouge à lèvres cramoisi sur son grand sourire. La maison sentait encore vaguement la viande que Ivy avait fait frire pour leur dernier repas avant de retourner vivre à Moselle avec sa maternelle, sa petite peste de fille et son infirme de mari. Ce serait là que Lee et Marina entameraient la phase américaine de leur vie commune. Ils feraient l'amour dans la plus grande des deux chambres, et ce serait là aussi qu'ils la battraient. Ce serait là que Lee resterait longuement éveillé dans son lit après de longues journées passées à assembler des contre-portes et à se demander pourquoi diable il n'était pas encore célèbre. N'avait-il pas essayé ? N'avait-il pas essayé de toutes ses forces ? Et ce serait dans cette salle de séjour, avec son plancher bosselé et son tapis verbile et limé, que Lee rencontrerait pour la première fois l'homme que j'étais censé avoir à l'œil, celui qui avait fait douter Al sur l'entière responsabilité d'Oswald. Cet homme s'appelait George Morenchild, et je tenais beaucoup à entendre ce que lui et Oswald avaient à se dire. Il y avait un vieux bureau dans la salle de séjour, contre le mur de séparation avec la cuisine. Les tiroirs contenaient un fouillis de couverts dépareillés et d'ustensiles de cuisine déglingués. J'ai tiré le bureau
et aperçut une prise électrique. Excellent. J'ai posé la lampe sur le bureau et je l'ai branchée. Je savais que des gens pourraient vivre ici un certain temps avant que les Oswald n'emménagent. Mais ça m'aurait étonné qu'ils emportent la lampe penchée de Pise en décampant. Si par malheur ils la fauchaient, j'en avais une de secours dans mon garage. J'ai percé un trou dans le mur extérieur avec mon forêt le plus fin, repoussé le bureau à sa place et essayé la lampe. Elle marchait. J'ai remballé mes affaires et quitté la maison en prenant soin de verrouiller la porte derrière moi. Puis, je suis rentré à Jody. Sadie m'a appelé pour me demander si je voulais venir souper. Juste de la viande froide, a-t-elle précisé. Mais il y avait du fondant pour le dessert, si j'avais envie. J'y suis allé. Le dessert fut délicieux, comme toujours, mais les choses avaient changé. Parce que Sadie avait raison. Il y avait un balai dans le lit. Aussi invisible que le Jimla aperçu par Rosette à l'arrière de ma voiture, mais bel et bien là. Et invisible ou pas, il projetait une ombre. Parfois, un homme et une femme arrivent à un carrefour et s'y attardent, hésitant à choisir une voie plutôt qu'une autre, sachant qu'un mauvais choix les mènera à la fin, alors que tant de choses méritent d'être sauvées. Ainsi en alla-t-il entre Sadie et moi durant ce rigoureux hiver 1962. Nous sortions quand même dîner un ou deux soirs par semaine et passions encore occasionnellement la nuit du samedi au dimanche au bungalow Candlewood. Sadie aimait le sexe et c'est une des choses qui a contribué à sauver notre couple. Nous avons surveillé ensemble trois autres balles du lycée. C'était toujours Donald Bellingham, le DJ. Et tôt ou tard dans la soirée, les jeunes nous demandaient de réitérer notre première performance de l'Indy. Ils sifflaient et nous applaudissaient toujours. Et pas par politesse. Ils étaient authentiquement captivés. Et certains d'entre eux ont commencé à apprendre les pas eux-mêmes. Cela nous faisait-il plaisir? Bien sûr. L'imitation est réellement la forme la plus sincère de flatterie. Mais nous ne fûmes jamais aussi bons que la première fois, jamais aussi souples et intuitifs. La grâce de Sadie s'altérait. Une fois, sa main a lâché dans une figure aérienne et elle se serait écrasée sur le sol si deux solides joueurs de football dotés de réflexes rapides ne l'avaient interceptée. Elle se tira d'embarras en riant, mais j'ai bien vu le trouble sur son visage. Et le reproche. Comme si c'était ma faute. Et, en un certain sens, ça l'était. La crise était dans l'air. Et elle aurait éclaté plus tôt sans le Jody Jamboree. Ce fut notre période de répit. Notre chance de prolonger un peu l'aventure et de bien réfléchir à tout avant de nous laisser embarquer dans une décision qu'aucun de nous ne voulait prendre. Ellen Doherty est venue me trouver en février pour me demander deux choses. Tout d'abord, si je voulais bien revenir sur ma décision et signer un nouveau contrat pour l'année scolaire 62-63, et ensuite si je lui ferais la faveur de mettre en scène la nouvelle pièce des premières et terminales, celle de l'an passé ayant connu un tel succès. J'ai décliné les deux propositions, non sans un pincement au cœur. Si c'est à cause de votre livre, « vous aurez tout l'été pour y travailler », plaida-t-elle. L'été ne sera pas assez long, ai-je argué, même si à ce moment-là je me foutais pas mal de ce que deviendrait ma ville assassine. D'après Sadie Dunhill, vous vous fichez comme d'une guigne de ce roman. C'était une intuition dont elle avait négligé de me faire part. Ça m'a secoué, mais je me suis efforcé de ne pas le montrer. « Elle !» Sadie ne sait pas tout. La pièce, alors. Acceptez au moins pour la pièce. Tant qu'il n'est pas question de nudité, je soutiendrai n'importe lequel de vos choix artistiques. Étant donné la composition actuelle du conseil d'administration et le fait que je n'ai moi-même qu'un contrat de 2 ans en tant que proviseur, c'est une sacrée grosse promesse que je vous fais. Vous pourrez la dédier à Vince Knowles si vous le souhaitez.
Une saison de football a déjà été dédiée à sa mémoire, Ellie. Je pense que ça suffit. »
Elle est repartie sans insister. La deuxième demande me vint de Mike Coslow, qui passerait son examen de fin d'études secondaires en juin et envisageait de prendre le théâtre comme spécialité à l'université.
« Mais j'aimerais vraiment jouer dans une autre pièce ici. Avec vous, monsieur Amberson. Parce que c'est vous qui m'avez montré la voie. »
À la différence d'Ellie Doherty, il accepta sans discuter l'excuse de mon roman bidon, ce qui me donna vraiment mauvaise conscience. Très mauvaise. Pour un homme qui avait en horreur le mensonge, qui avait vu sa vie conjugale s'effondrer sous le poids de tous ceux de son épouse, celle qui croyait pouvoir arrêter quand je veux, j'en racontais assurément un paxon, comme on disait de mon temps à Jody. J'ai raccompagné Mike jusqu'au parking des lycéens où était stationné son bien de grand prix, une vieille berline Buick avec extension d'aile, en lui demandant des nouvelles de son bras dont on avait enlevé depuis peu le plâtre. Il me dit qu'il allait bien et qu'il pensait être consolidé pour la reprise de l'entraînement de football l'été prochain.
« Mais vous savez, » ajouta-t-il, « si je me faisais recaler, je n'aurais pas le cœur brisé. Ça me laisserait la possibilité de faire un peu de théâtre en club, en plus de la fac. Je veux tout apprendre. La scénographie, l'éclairage, même les costumes. »
Il se mit à rire.
« Je vais commencer à me faire traiter de tantouse. »
Le premier semestre, concentre-toi sur le football, sur tes notes et veille à ne pas trop avoir le mal du pays, je lui ai dit. S'il te plaît, fais pas le con. Il prit une voix de zombie à la Frankenstein.
Oui, maître.
Comment va Bobby Jill ?
Mieux, dit-il. Tenez, la voilà.
Bobby Jill attendait près de la Buick de Mike. Lui fit signe, puis, m'apercevant, se détourna aussitôt, comme si elle était subitement intéressée par le terrain de football désert et l'étendue de prairie au-delà. C'était un mouvement auquel tout le monde au lycée s'était habitué. En cicatrisant, sa blessure au visage avait formé une grosse boursouflure rouge. Elle essayait de la cacher sous des produits cosmétiques, ce qui ne faisait que la rendre plus visible. Mike me dit « Je lui ai dit d'arrêter de se tartiner de poudre. Ça l'a fait ressembler à une publicité pour le salon funéraire Soames. Mais elle veut rien entendre. Je lui ai dit aussi que je sortais pas avec elle par pitié, ni pour l'empêcher d'avaler encore des somnifères. Elle dit qu'elle me croit, et peut-être que c'est vrai. Les jours où il fait beau. » Je l'ai regardé courir vers Bobby Jill, l'attraper par la taille et la faire pivoter vers lui. J'ai soupiré, me trouvant un peu stupide et très buté. Une partie de moi voulait monter cette foutue pièce. Même si ça ne servait à rien d'autre, ça meublerait le temps qui restait en attendant que mon propre spectacle commence. Mais je ne voulais pas devenir plus accro à la vie à Jody que je ne l'étais déjà. De même que toute éventualité d'un avenir durable avec Sadie, ma relation avec la ville devait être mise en suspens. Si tout se passait bien, c'était pas impossible que je remporte le tout. La fille, la montre en or et le reste. Mais je pouvais pas compter là-dessus, quel que soit le soin avec lequel je me préparais. Même si je réussissais, je serais peut-être contraint de m'enfuir. Et dans le cas contraire, je risquais fort d'être récompensé de ma bonne action pour le monde par la prison à vie. Ou la chaise électrique au pénitencier de Huntsville.